Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Aujourd'hui, la génération Y est-elle soluble dans le travail ? La France manque de bras. Selon une enquête sur les perspectives d'embauche publiée mi-avril par Pôle emploi, de nombreux secteurs prévoient des recrutements massifs dans les prochains mois, notamment dans le commerce, l'industrie et surtout les services aux particuliers et aux entreprises, mais ils font face à une pénurie de candidats. Alors voilà qui devrait réjouir celles et ceux qui s'apprêtent à rejoindre le marché de l'emploi. Après avoir été biberonnés pendant toute leur scolarité aux perspectives du chômage de masse, l'horizon semble s'éclaircir. Alors évidemment, tout n'est pas si rose. Les statistiques des perspectives d'embauche ne disent rien de la nature du travail, de son niveau de rémunération, de la précarité des statuts qui sont proposés. Si en France, le CDI reste le maître étalon du contrat de travail, sa forme la plus répandue, il perd du terrain au profit des contrats courts. Les mutations du marché du travail, la génération Y les a expérimentées. Cette génération regroupe celles et ceux qui ont aujourd'hui approximativement entre 25 et 35 ans. Aux carrières balisées, elles préfèrent la pratique de ces savoir-faire et en acquérir de nouveaux pour éviter l'ennui. C'est en tout cas ainsi que l'a résumé un article du journal Le Monde il y a quelques mois. Alors la génération Y est-elle soluble dans le travail ? Eh bien, pour tenter de répondre à cette question, nous vous proposons une émission non pas avec des sociologues, mais avec un échantillon totalement subjectif de cette génération Y, trois plus ou moins trentenaires. À commencer par vous, Salomé Berlioux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente et fondatrice de l'association Chemin d'Avenir qui s'occupe d'accompagner notamment vers l'emploi des jeunes de la France périphérique, France périurbaine et France rurale. Vous avez co-signé un livre « Les Invisibles de la République » chez Robert Laffont, compagnie d'Erki Maillard. Et vous êtes par ailleurs conseillère de l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Juste avant de présenter nos deux autres invités, qu'est-ce que ça veut dire, conseillère d'un ancien Premier ministre ?
Alors, au titre de ses fonctions d'ancien Premier ministre, il a le droit à, je dirais, un couteau suisse qu'il accompagne dans ses différentes missions. Et donc, je suis ce couteau suisse.
Alors, on va voir si vous êtes la seule couteau suisse autour de cette table ou s'il y en a d'autres. C'est peut-être votre cas aussi, Annabelle Giudice. Bonjour.
Bonjour.
Il paraît que vous avez dû réfléchir quand on vous a contacté pour savoir comment vous aimeriez être présentée. Vous avez dit, laissez-moi quelques heures parce que ça fait une trentaine d'années que j'irai. Réfléchis justement.
Tout à fait, parce qu'effectivement j'ai du mal et je pense que d'une certaine manière je suis en résistance contre ce qui pourrait me définir par le travail. C'est quand même souvent la première question qui se pose. Bonjour, comment tu vas? Tu viens d'où? Et tu fais quoi? Et cette question, tu fais quoi? Comme tu viens d'où d'ailleurs, sont des questions qui me dérangent. Elles vont à l'encontre de ce que je vis en dehors de ça dans mon parcours.
Malgré voilà. Toi, après ces quelques heures ou ces quelques jours de réflexion, comment est-ce que vous aimeriez qu'on vous présente?
Par rapport
à cette question du travail,
je pense qu'une nomade dans le vaste marché de l'emploi correspondrait assez bien au sujet du jour.
Anthony Babkin, nomade, couteau suisse, quelle sera vous votre présentation? Vous êtes entrepreneur déjà?
Oui, entrepreneur social. Donc entrepreneur social, ça me va bien.
Vous êtes par ailleurs le cofondateur des Diversidays, qui est un collectif en faveur de l'émergence de la diversité dans les milieux du numérique. Et on ne vous voit pas, mais on vous entend. Peut-être que certains ont reconnu votre voix, une voix qu'on entend régulièrement sur la chaîne BFM Business.
C'est ça.
Alors nous sommes une émission qui est enregistrée, mais qui est diffusée ce 1er mai. Première question à tous les trois, la fête du travail le 1er mai, qu'est-ce que ça représente pour vous, si tant est que ça représente quelque chose? Anthony Babkin.
Ah, c'est moi qui ouvre le bal. Bah, je pense que c'est un moment de prendre un peu de recul sur le marché du travail, et je trouve ça plutôt chouette que vous nous ayez réunis pour en parler. En vrai, moi quand vous avez parlé de pénurie, un moment de compétence sur le marché du travail, je pense nécessairement à l'écosystème dans lequel je travaille, qui est celui du numérique. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2018, Pôle emploi a annoncé 80 000 jobs, emplois, qui étaient directement liés à la compétence numérique. Sur ces 80 000 emplois, on sait qu'il y a tout un tas de compétences que les employeurs ne trouvent pas. Pourquoi ? Parce que pénurie de compétences sur ces marchés-là, tout un tas de compétences qu'on ne trouve pas facilement, parce qu'il manque des talents, il y a des jeunes pousses qui partent vite à l'étranger chercher ces jobs-là. Donc pour moi, c'est une manière de prendre un peu de recul sur le marché de l'emploi et de se dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que veulent les gens, c'est quoi notre lien au travail, et puis effectivement faire un état des lieux aussi sur différents secteurs, dont celui du numérique sur lequel je travaille.
La fête du travail, c'est l'occasion de faire le point sur ses propres compétences, Salomé Berlioux.
Oui, c'est vrai que bon, au-delà du côté symboliquement fort de cette journée, moi, si je réfléchis au travail et aux jeunes ce jour-là en particulier, je me dis qu'on pourrait peut-être en profiter pour faire des ponts avec les questions de l'orientation. Parce qu'en fait, à mon sens, quand on voit qu'un jeune sur trois, je crois, dit regretter son orientation, on imagine l'impact que ça peut avoir sur l'insertion professionnelle de ces jeunes. Et donc, le 1er mai, comme les autres jours, peut être une journée pour y penser.
Et pour vous, Annabelle Giudice, qu'est-ce que ça représente le 1er mai?
Pour moi, c'est évidemment une lutte. Donc, c'est celle de la lutte pour les droits sociaux et c'est celle de la lutte pour un travail digne. Et donc, je pense que c'est d'être une journée et de célébration et de commémoration de celles et ceux qui se sont battus pour que nous ayons les droits sociaux, en tout cas en France, auxquels nous avons droit. Et surtout, un moment de rassemblement pour une lutte pour obtenir davantage de droits sociaux. Et nous en avons besoin aujourd'hui.
Alors, on verra si la génération à laquelle vous appartenez est sensible à ces luttes. Je reprécise bien, hein, vous n'êtes pas un échantillon représentatif de cette génération. Hein, c'est vraiment un choix, je le redis, absolument subjectif. Et je voudrais qu'on commence peut-être par le début, avec vous trois, pour parler du travail et de vos itinéraires singuliers. Votre entrée dans le monde du travail, ça s'est passé, comment est-ce que vous en souvenez? C'était un job étudiant, c'était un stage, c'était directement un emploi, Annabelle Giudice?
Ça a commencé par un stage à Bruxelles de 6 mois à Africalia, une ONG qui s'intéresse à la coopération culturelle entre la Belgique et différents pays d'Afrique. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis retournée vivre en Belgique. Le rapport au travail est aussi différent de celui qui est marqué en France.
C'était un stage qui avait un rapport avec vos études?
Absolument. J'étais en études en gestion de projets culturels à Lyon 2 et donc c'était tout à fait la suite. Et suite à ça, je me suis retrouvée directement à travailler pour l'État au cours d'un VIA au Burundi, volontariat international administratif, qui sont des contrats particuliers réservés aux Français de moins de 30 ans, qui sont des véritables tremplins, je parle en termes de compétences, mais aussi en termes de découverte du marché de l'emploi. Voilà, donc j'ai effectué 2 ans au Burundi qui ont été fondamentales pour moi.
Salomé Berlioux, vous, j'ai vu que vous aviez fait Hippocagne, puis un master affaires publiques à Sciences Po Paris. Est-ce que ça vous a ouvert rapidement les portes de l'emploi et quel type d'emploi c'était? Est-ce que c'était le stage qui est quand même la forme aujourd'hui la plus répandue et très largement, on n'en fait pas qu'un d'ailleurs, en général on les cumule avant d'obtenir peut-être un CDD, voire un CDI?
Oh oui, absolument, les stages étaient un peu un passage obligé, mais d'ailleurs y compris pour entrer à Sciences Po. Moi c'est une anecdote que je raconte souvent aux jeunes des territoires ruraux qu'on accompagne avec Chemin d'Avenir, quand je leur explique que à l'oral de Sciences Po, la première année quand j'étais admissible, on m'a répondu « Mademoiselle, rentrez chez vous et ne revenez jamais ». Je pense que ça venait aussi du fait que je n'avais pas fait de stage et pour cause, je ne savais pas qu'il fallait en faire. Et donc ensuite, il a fallu rattraper de manière un peu volontariste ce retard si je voulais intégrer cette école. Ça a été le cas.
Vous ne saviez pas qu'il fallait en faire, c'est-à-dire?
Non. Bah, cette information-là, elle perce assez difficilement dans les territoires où, en fait, faire des stages, ça veut dire où, quand, comment, pourquoi on vit dans des zones de montagne, on vit au cœur de la diagonale du vide, comme j'aime à dire, de l'Allier, département auquel je suis très attachée. Et en fait, faire un stage, ça veut dire trouver ce qu'il y a à proximité immédiate, et ça ne correspond pas évidemment toujours à ce qu'on pourra avoir envie de faire plus tard. Donc c'est forcément très limité.
Est-ce que quand on grandit, je crois que c'est votre cas à Évry, donc c'est dans le département de l'Essonne,
oui,
c'est ça,
hein,
Anthony Babkin, on est aussi mal informé peut-être de la nécessité des parcours à effectuer pour pouvoir intégrer le monde du travail, ou bien est-ce que vous aviez une connaissance un petit peu plus importante?
Non, je crois que les choses sont en train doucement de changer, mais moi à l'époque c'était une catastrophe. Très franchement, j'ai le souvenir d'avoir envoyé un nombre de bouteilles à la mer pour trouver une alternance, pour trouver au moins un recruteur qui me réponde, même négativement. Je me souviens d'avoir envoyé une centaine de CV. En fait, c'est là où le bât blesse aujourd'hui en France, et c'est là aujourd'hui où un certain nombre de jeunes peuvent se remettre en question. Et c'est ça que je reproche parfois au système, c'est finalement ces bouteilles à la mer sans réponse, parce qu'on n'a pas les codes, parce que le CV correspond pas bien, parce qu'il y a un nom à consonance étrangère. On l'a vu hein, par rapport à plein d'études qu'il y a des facteurs limitants. Et puis après, moi je parle de double, triple peine, c'est-à-dire le nom à consonance étrangère, la ville qui va pas bien, parce qu'elle est trop en consonance avec la banlieue. Donc moi j'étais victime de ça, si j'ose dire. À l'époque, c'est Mosaïque RH, qui est un cabinet de recrutement à l'égalité des chances, qui m'a permis d'ouvrir la première porte d'une alternance. Mais sans ça, je pense que je me serais remis en question, et pas pour les bonnes raisons. J'entends par ça sans doute pas pour des choses très factuelles de bah tiens il faut que je change ça sur le CV ou peut-être que j'ai pas la bonne école, mais en tout
vous
cas
avez pourtant un parcours universitaire qui est quand même assez enviable, disons, enfin enviable pour ceux qui aimeraient avoir le même. Ouais. Mais vous êtes diplômé de l'Institut Mines Télécom Business School et du CELSA.
Oui. Alors en fait déjà à l'époque lorsque j'ai postulé pour ma première alternance, ça s'appelait l'Institut National des Télécommunications, mais le cabinet Mosaïque RH, quand j'ai eu le premier lien avec eux, m'ont dit mais attendez Anthony, vous avez un nom à consonance étrangère, vous n'avez pas de grand groupe sur votre CV et vous venez d'une ville qui est une ville de banlieue. C'est trois arguments qui peuvent jouer en votre défaveur. Et je me suis dit effectivement c'est peut-être eux qui ont raison. Et en m'ouvrant à un moment les portes d'une entreprise, c'était GDF Suez à l'époque, j'ai pu avoir ma première alternance. Et en fait, ensuite, après, je suis rentré effectivement à la Sorbonne. Et alors là, première expérience sur le CV, devenu parisien quelque part avec cette expérience-là. Plus de problème, 13 CV envoyés, 13 entretiens d'embauche. Donc, un truc de fou. Mais, et cette mutation-là, je crois que, en tout cas, c'était mon petit mot aussi par rapport à ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes talents aujourd'hui qui doutent, mais parce qu'à un moment, le CV passe à la trappe pour toutes les raisons que j'ai évoquées là. Et c'est une forme d'injustice qui crée à un moment des dommages collatéraux qui sont vraiment compliqués.
Je vous vois acquiescer, Annabelle Giudice. Ça vous rappelle des souvenirs personnels?
Pas du tout. Ce que
raconte Anthony Babkin?
Pas du tout. J'ai pas du tout ce parcours-là. Et j'ai très vite refusé la course. Et bon, j'ai eu de la chance à certains endroits, à d'autres moins. Mais en tout cas, je pense que par mon parcours et par le fait d'avoir tout de suite une expérience à l'étranger et en Afrique, quand je suis revenue très clairement, on ne pouvait me dire carrément, mais enfin, en Afrique, vous n'avez rien fait, puisque c'est connu, en Afrique, on ne fait rien. Mais je n'ai pas eu à vivre les discriminations dont vous parlez. Par contre, il se trouve que j'ai travaillé pour le PIMS, qui est une structure de médiation sociale à Paris il y a quelques années, et que j'ai eu affaire à des jeunes qui se trouvaient avoir plutôt votre profil Salomé ou plutôt le vôtre Anthony, des gens qui avaient entre 18 et 25 ans, et que je me suis trouvée très désemparée parce que aussi pas formée, pas préparée, pas accompagnée, et que je ne savais pas très bien quoi dire à ces jeunes. Mais du coup, ce que vous dites Anthony me résonne vraiment avec la situation que j'ai vécue en tant que coordinatrice de ces jeunes-là.
Salomé Berlioux, dans une interview que vous avez donnée à l'excellent journal La Montagne, vous racontez votre arrivée à Paris, dont vous dites qu'elle a été brutale. Pendant des années, j'ai vraiment senti une fracture entre deux mondes, décalage de niveau académique, manque de code, manque d'expérience à revendiquer lors d'un entretien, sentiment permanent d'illégitimité.
Oui, ça fait pas rêver, ça c'est certain. Mais en fait, je pense que vraiment que mon cas personnel n'a d'intérêt que parce qu'il fait écho au cas de milliers, si ce n'est de millions de jeunes Français, soit qui viennent des quartiers, soit qui viennent des territoires ruraux, soit qui viennent d'ailleurs de petites villes et qui, quand ils ou elles se confrontent à pas forcément une grande métropole, mais on va dire une ville d'une taille un peu supérieure, ont l'impression de cumuler les obstacles et d'avoir un nombre de défis à relever qui relèvent de l'autocensure, donc de mécanismes psychologiques, d'un sentiment de décalage parfois culturel, du fait d'avoir l'impression, et est-ce vrai, avéré, ou est-ce encore une fois dans la tête, mais de ne pas partir avec les mêmes chances de départ que les autres. Et ça, les exemples en la matière sont extrêmement nombreux. Et après, on peut évidemment faire une rencontre qui va changer les choses et qui peut être déterminante. Et souvent, les gens racontent ça. Vous, c'était Mosaïque RH.
Il y en a.
Et l'idée de chemin d'avenir, c'est de systématiser ces rencontres. C'est-à-dire de dire on ne peut pas s'en remettre à la chance quand il s'agit du destin de millions de jeunes Français. Et donc, comment faire pour que ces rencontres, ces outils, cet écosystème de réussite soient accessibles aux jeunes des territoires et notamment des territoires ruraux.
Anthony Babkin, quand on vous a appelé pour vous proposer de participer à l'émission et pour savoir aussi un peu quel était votre rapport au travail, vous nous avez raconté que quand vous étiez plus jeune, vous l'êtes encore, hein, je vous rassure, vous, ce qui comptait d'abord, c'était de trouver un bon travail. Ça, c'était quelque chose de fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire, trouver un bon travail? Qu'est-ce que ça voulait dire, en tout cas?
Je pense que quand on vit dans un environnement qui est plus ou moins modeste, la chose à laquelle on réfléchit, c'est trouver un métier qui vous fasse gagner un peu d'argent, quoi. Enfin, on va pas se mentir, le but de plein de jeunes, c'est un moment, et puis d'autant plus à la génération Instagram qui voit passer sur son fil d'actualité des milliers de belles choses, il a envie de l'acquérir. Donc, moi, j'étais en quête d'évolution sociale, on va dire. Je le savais pas, mais voilà. Il y a eu des choses comme des espèces de piliers qui sont venus sur ma route. J'ai pu écrire un livre très jeune. Ça a été un vrai ascenseur social. J'avais postulé à l'époque pour écrire un livre chez Erol. Il s'avère que deux mois après, l'éditrice a pris contact avec nous en disant « ça tombe bien parce que dans le champ éditorial que vous voulez, sur lequel vous voulez aller, on a besoin d'un livre ». Donc à 23 ans, je me suis retrouvé propulsé auteur. Donc il y a des choses comme ça qui sont vraiment des ascenseurs. Mais évidemment, il y a ce risque pour ceux qui ne prennent pas ces ascenseurs-là, à un moment d'avoir une remise en question profonde de ce qu'ils sont. Est-ce que mon CV correspond? Est-ce que mon profil correspond? Est-ce que j'ai fait les bonnes études? Est-ce que j'ai intérêt à continuer? Donc il y a évidemment cette quête d'un job qui permet de gagner sa vie.
Mais c'était dans quoi, par exemple? C'était dans une grande entreprise?
J'avais envie de découvrir un grand groupe. C'était sans doute les parents qui avaient poussé en disant « va voir ce que c'est, va voir ce que c'est ». J'ai pas été déçu de mon voyage. je plaisante, mais il y a plein de grands groupes inspirants, mais on en reparlera sans doute sur ces jeunes qui fuient de plus en plus la mécanique des grands groupes qui est parfois déresponsabilisante. Je dis pas qu'ils le sont tous, évidemment. Mais face aux startups où à un moment, peut-être que la taille de la structure va être plus petite, mais avec plus de responsabilités. J'étais à la recherche de l'expérience dans un grand groupe.
Il y a ceux qui la fuient, et puis il y a ceux qui ne peuvent pas l'atteindre. Je voudrais vous lire un extrait d'un roman qui a été publié en 2017, au Dilettante. C'est signé Marion Messina. Ça s'appelle Faux départ. Ça raconte l'histoire d'une jeune provinciale qui vient de Grenoble. Je crois que c'est une région que vous connaissez un petit peu, Annabelle Giudice, qui fait des études, qui va monter à Paris en essayant de les poursuivre, et puis qui va devoir, pour vivre, pour financer ses études, faire des petits boulots et qui va s'installer dans la précarité. Elle rencontre un certain Benjamin dont elle dit ceci. Il était livreur le jour chez Pomme de Pin et le soir dans une multinationale de la pizza. Il travaillait 9 heures par jour sur son scooter entre salade diététique, formule express, gourmande méditerranéenne, manager nerveux, irascible et méprisant. Benjamin avait 26 ans, il venait de la Sarthe, avait validé une licence d'histoire et emménagé à Paris pour poursuivre ses études à la Sorbonne. Il n'avait pas eu droit à une chambre en résidence universitaire et avait commencé les livraisons pour financer son master recherche. Là, sa bourse et son boulot à mi-temps ne couvraient pas l'ensemble des frais. Il avait tout arrêté. Est-ce que ces jeunes-là qui se retrouvent dans une précarité face au marché de l'emploi, vous en avez rencontré, vous, Annabelle Giudice, dans votre parcours, qui est un parcours qui n'a rien de linéaire. On va y venir dans un instant, mais vous avez travaillé, vous avez aussi arrêté par choix de travailler et vous avez sillonné un peu le territoire.
Je crois qu'effectivement, en tout cas si je peux me permettre de me positionner un peu en décalage avec les deux autres invités, c'est que moi j'ai très vite compris que c'est une course, c'est une compétition dans laquelle on se trouve dans le marché de l'emploi, et qui dit compétition dit gagnant, dit perdant, entre guillemets. Perdant ne veut pas dire en termes d'individu, hein, bien sûr, mais c'est que dans cette compétition, tout le monde ne pourra pas gagner, puisque les places sont de plus en plus rares, elles sont de plus en plus chères, et en plus elles nous permettent de moins en moins d'avoir un confort de vie auquel vous, je dis vous et moi, c'est-à-dire nous à 30 ans à peu près, nous avions imaginé, potentiellement imaginé quand on avait 24 ans. Donc moi, c'est vrai que j'ai fait très vite le choix de refuser cette chose-là et donc très, très régulièrement de remettre en question chaque engagement professionnel que je pouvais avoir. Et c'est pénible et ça demande beaucoup d'énergie et c'est très inconfortable. Et ça, évidemment, c'est une précarité évidente.
C'est allé assez loin, hein, puisque vous avez à un moment donné cessé de travailler. Alors je ne sais pas si c'est par choix ou par nécessité, mais en tout cas, vous avez profité de votre chômage, si j'ose dire.
Tout à fait.
Pour partir en caravane, c'est ça?
C'est ça, mais parce que je pense que...
Vous avez fait quoi alors, du coup?
Ne jamais oublier qu'un chômeur est un travailleur non actif, mais c'est un travailleur puisqu'il a cotisé, donc c'est des droits qu'il perçoit et non pas une aide sociale, contrairement au RSA par exemple. Et simplement, j'étais à Paris, ça faisait 2 ans que j'étais à Paris, j'étais montée à Paris. Mais pour moi, c'était une évidence parce qu'avec un parcours international, on se retrouve forcément à une zone carrefour, on en a besoin. Et donc, c'est vrai que la compétition, l'envoi de CV à répétition, le fait de se justifier de qui on est, de ce qu'on veut, de se projeter dans un avenir, on ne peut pas se projeter dans un avenir sans avoir rencontré les personnes, sans avoir essayé quelque chose. C'est comme essayer une recette. La première fois, souvent, vous la loupez. Et puis la deuxième fois, elle est peut-être meilleure. Puis la troisième fois, finalement, vous faites autre chose. Donc j'ai choisi de couper complètement avec cette vie-là et de partir sur les routes de France. J'allais aussi retrouver un peu des racines rurales à certains endroits. Et aussi parce que je suis convaincue que nous avons besoin de revenir à une forme de sobriété, à la fois dans nos modes de vie, mais surtout dans notre pratique du travail et dans notre façon de le penser, notamment pour repenser le temps de l'inutile, l'inutile au sens de ce qui est rare et précieux, du temps que nous avons à passer sur cette terre, à réfléchir à nos relations, nos interactions ensemble, et que ce temps-là, nous devons nous battre pour nous l'offrir, notamment en re-questionnant ce travail qui nous pousse à une productivité, qu'on soit une entreprise, qu'on soit une association.
Anthony Babkin et Salomé Berlioux, qu'est-ce que vous pensez de la radicalité de ce choix? Anthony Babkin, je crois que vous avez eu des fonctions de direction dans une grande agence de communication qui était des BWA. Vous avez choisi de la quitter?
Oui, assez récemment.
Donc aujourd'hui votre statut c'est quoi?
C'est chômeur, mais c'est chômeur actif parce que je crée cette initiative sociale dont on a parlé, Diversity Days, qui est une association d'égalité des chances dans le numérique. Beaucoup de travail sur ce champ. Pour répondre, en tout cas, je pense qu'il y a un enjeu de quête de sens de beaucoup de gens de la génération dont vous avez parlé. Pourquoi? Parce que le principe des grands groupes, à un moment, c'est des carrières qui sont quand même assez assez, je dirais pas qu'elles sont, elles sont souvent les mêmes, mais en tout cas, elles sont parfois déresponsabilisantes. J'entends que des grands groupes qui sont plus à taille humaine, qui comptent des centaines de milliers de personnes, derrière, on a évidemment des startups qui sont parfois à plus petite taille. En fait, on a aussi des talents qui, à un moment, vont chercher à avoir plus de responsabilités, donc ou plus de sens. Donc, c'est un peu pourquoi je le fais, pourquoi je fais ça au quotidien, pour qui je travaille. Donc, je pense que face à toutes les tempêtes qu'il y a en ce moment, que ce soit écologique, que ce soit numérique, toutes les transformations du moment, etc., il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui se disent « mais moi, en fait, j'ai envie de contribuer à ce changement ». Et parfois, dans des grands groupes, on peut se sentir vite être une toute petite chose dans un grand environnement. Donc, certains décident de rejoindre des startups, de créer eux-mêmes leurs projets. Moi, j'ai eu beaucoup de talents qui m'ont quitté pour cette dimension-là, en tout cas quand j'étais directeur général adjoint de TBWA, de talents qui m'ont quitté pour me dire « mais en fait, moi, je veux changer la planète, quoi. Je change le monde, je participais à certains grands changements. » Et donc, bah, derrière, est-ce qu'un grand groupe est capable d'offrir ça, cette quête de sens? Donc, ça rejoint un petit peu le propos précédent sur la quête de sens. Est-ce que j'arrive à me réaliser dans une grande structure, sur des parcours parfois un peu, souvent les mêmes, parfois un peu trop hiérarchiques, où je pense à N plus 2, N plus 3, mes chefs, voilà.
Donc, Salomé Berlioc.
J'entends ce que vous dites, notamment sur cette histoire de course. Et en fait, moi, ce que j'essaye de dire aux jeunes qu'on accompagne avec Chemin d'Avenir, c'est que si c'est une course, ça doit être une course vis-à-vis de soi-même. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup la notion de potentiel et que moi, je réfléchis en termes de parcours et parcours vraiment au pluriel. D'ailleurs, Chemin d'Avenir, on a mis un S à chemin et un S à avenir. Et souvent, les gens oublient le deuxième S, mais ce n'est pas un hasard. L'idée, c'est de dire comment faire en sorte que les jeunes puissent aller au bout de leur potentiel, ce qui n'est pas la même chose que de parler de talent. Et moi, je suis toujours un petit peu en réaction par rapport à ce terme-là, parce que voilà, le potentiel de reprendre l'exploitation agricole de ses parents, le potentiel d'enseigner, le potentiel de faire plein de choses successivement, de devenir diplomate ou de travailler dans la lunetterie.
Je le nuancerai juste en disant qu'un potentiel, c'est un talent qui s'ignore. Enfin,
oui,
mais
voilà, c'est l'idée, c'est d'aller aussi loin qu'on peut aller, si on le souhaite, quelle que soit la voie qu'on a choisie. Et ça, je trouve ça très important, mais parce qu'en fait, derrière le travail et derrière ce à quoi on peut slash va passer une partie de sa journée, il y a tellement d'autres. Enfin, ça dit aussi des choses de nous. C'est là où peut-être on est en désaccord, mais je pense que il y a quand même des moyens de se réaliser à travers sa vie professionnelle et aussi à travers les interstices que laisse ce temps du travail. Et le fait d'avoir fondé une association, moi je n'ai pas hésité, et là pour le coup on se rapproche, Annabelle, vous et moi, c'est-à-dire à quitter des CDI d'ailleurs au tout début de ma vie professionnelle parce que j'avais l'impression que ça ne correspondait pas à ce que je souhaitais faire. Et le fait de monter une association, comme une start-up d'ailleurs, c'est de l'entrepreneuriat social, il y a ce côté gérer un projet de A jusqu'à Z avec des aspects RH, des aspects de communication, des aspects pédagogiques dans mon cas, le côté terrain, le côté encadrement. Et ça, c'est un épanouissement de chaque instant.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il n'y a pas de parcours figé aujourd'hui aussi. Moi, quand je parlais de talent, c'est parce que nécessairement, quand on travaille dans une grosse agence avec des gros clients corporate, on a besoin de gens qui ont un peu toutes les compétences, qui savent parler plusieurs langues, qui ont plutôt un bon niveau d'études, etc.
Mais ce sont des parcours qui ne sont pas figés, à votre avis, Anthony Babkin, parce que ce sont les individus qui, aujourd'hui, justement, peut-être une autre approche du marché du travail, même s'ils peuvent chercher des CDI, mais en tout cas, ils vont faire une succession de CDI. Ouais. Oui, est-ce que ça n'est pas aussi le marché du travail qui, aujourd'hui, de toute manière, interdit d'avoir des carrières longues, parce que le marché de l'emploi reste quand même assez précaire et qu'on ne peut pas viser à rester dans la même entreprise 20 ans, 30 ans, 40 ans.
Non, mais je crois que en fait, il n'y a pas de modèle figé. Moi, je suis absolument convaincu. Je regardais sur LinkedIn il y a quelques jours L'Oréal qui disait avoir 1 million de candidatures par an. Donc déjà, ce qui est énorme, et ce qui prouve que les grands groupes séduisent toujours aussi les jeunes pousses, que ce soit un jeune talent ou un potentiel, comme on l'évoquait tout à l'heure. Mais il y a évidemment d'autres carrières qui sont possibles. Et en fait, c'est ça qui est en train de s'ouvrir. Tout à l'heure, on parlait de nomades. Le digital nomade, c'est un peu, ces 5 dernières années, le nouveau profil de ceux qui travaillent dans le numérique, qui ont vu le jour. C'est le principe d'un freelance, donc quelqu'un qui est à son compte, et qui travaille pour plein d'entreprises à travers le monde, mais peut-être d'Australie ou peu importe dans son canapé à Paris. Non mais ouais. Alors mais c'est pas le cas
de
tout le monde.
Oui, hein. Je suis obligée de rebondir sur ce que vous dites parce que là les profils que vous décrivez et qu'on connaît par cœur effectivement de jeunes qui cochent toutes les cases, la maîtrise de plusieurs langues, des expériences dans des grands groupes ou à l'étranger, etc. Moi je pense que c'est d'une violence sans nom cette image-là pour les jeunes et notamment les jeunes des territoires périphériques. Bah, attendez, on leur présente un citoyen monde qui peut aller en Europe d'un claquement de doigts, qui peut parler anglais grâce à des expériences aux États-Unis, etc. Et concrètement, la réalité de jeunes des territoires dans lesquels on est présent avec Chemin d'avenir, c'est aller en seconde générale et technologique est un problème, est un sujet, parce qu'il n'y a parfois pas de place à l'internat, donc aller à 20 minutes de chez soi pour étudier est un enjeu. Alors aller en Australie...
Faire le choix, Nabel Giudice, justement, de changer d'emploi, de faire une césure et une césure longue, est-ce que ce n'est pas aussi, quelque part, une forme de luxe, c'est-à-dire quelque chose que n'importe qui ne peut pas se permettre? Peut-être que vous aviez davantage les moyens de le faire. Est-ce que ça n'est pas aussi, et je poserai la même question à Anthony Babkin et à Salomé Berlioux, une forme d'individualisme, en tout cas d'une approche beaucoup plus individualiste du travail, c'est-à-dire on ne va pas penser s'investir dans le cadre d'une entreprise, mais on pense d'abord à réussir sa propre vie avant de réussir sa vie de salarié, disons.
C'est parfait que vous posiez la question parce que suite à vos interventions, j'étais en train justement de me dire qu'il fallait absolument revenir sur cette question de l'individu, c'est-à-dire qu'on fait porter l'individu élève qui doit choisir son orientation, l'individu qui cherche à trouver une place. On fait porter l'individu l'ensemble des responsabilités à la fois pour être compétitif sur le marché de l'emploi, pour savoir trouver l'avenir qui lui convient, pour avoir des idées. C'est extrêmement difficile ce qu'on peut demander à des jeunes aujourd'hui, sachant que pour moi, la question qui a régi ma décision de partir en caravane, c'était avant tout de me défaire justement de cette responsabilité culpabilisante d'avoir à choisir l'emploi qui me convenait, dans lequel je m'épanouirais. Et je vous rejoins, évidemment qu'on peut s'épanouir dans un emploi, bien sûr, simplement moi ça n'a pas été mon chemin, et dans ce chemin-là j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient en lutte et en résistance, et le choix de partir en caravane, et là où je voudrais revenir sur vos interventions, c'est qu'on ne peut pas continuer à collectivement, on ne peut pas continuer à régir simplement des vies individuelles, même si j'ai beaucoup d'estime pour le travail que vous faites pour Chemin d'Avenir ou vous pour votre start-up. Je pense que vous portez réellement des gens et que c'est un accompagnement indispensable. Mais pour moi, il est temps de se poser la question d'un décalage collectif et parce que pendant qu'on parle des individus et que moi-même, je prends ma caravane et effectivement, j'avais les moyens au sens où j'avais une famille qui me soutenait, une caravane et une voiture. Et puis un an de chômage pour permettre ça. Effectivement, c'est un luxe. Effectivement, c'est un luxe. Mais quel luxe ? Et moi, je me pose la question, à quel endroit on repose la question du cadre légal du marché du travail, des accords qui régissent le marché du travail, des employeurs du marché du travail. Vous parliez de L'Oréal qui se targue d'avoir 1000 candidatures, mais moi, je suis en train de faire des candidatures. On reçoit pour n'importe quel poste, mais le poste à tiers-temps d'administrateur ou de secrétaire.
Mon propos, c'était juste de dire que je pense qu'il y a une génération qui ne rêve pas que de créer sa boîte ou d'être autonome, mais aussi qui rêve toujours de travailler dans des grands groupes.
Mais je vais juste finir là-dessus. Et simplement, il y a des systèmes qui sont des systèmes collectifs régis par des systèmes politiques dans lesquels nous sommes contraints d'avoir à postuler. Vous êtes au RSA, vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes contraint de postuler. Donc vous postulez à tout et n'importe quoi, vous êtes contraint de le faire pour une rémunération. Donc pour moi, il y a des dynamiques collectives qui sont à interroger en plus du travail à faire pour que chaque individu puisse trouver son chemin.
Dans les dynamiques collectives, et il peut aussi y avoir d'ailleurs des dynamiques collectives qui viennent des salariés, il y a des syndicats bien sûr dans les entreprises. Alors c'est sans doute beaucoup plus compliqué avec les mutations que connaît aujourd'hui le monde du travail, le développement de l'auto-entrepreneuriat par exemple, qui n'est pas favorable justement à ces corps constitués. Mais je voudrais vous faire écouter une archive d'une époque que vous n'avez pas connu directement. Nous sommes en juin 1968, le 10 juin précisément. Les accords de Grenelle viennent d'avoir lieu, qui ont mis fin justement à mai 68. Il y a un certain nombre de mesures sociales qui ont été votées. Et dans l'entreprise Wonder, qui faisait des piles, la reprise du travail, là aussi, vient d'être votée. Les salariés vont retourner à l'usine, mais il y a une jeune ouvrière qui s'y oppose.
Non, moi je rentrerai pas. Non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, hein. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein. Faut le voir, vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, hein. Enfin, il attaque le patron, c'est tout ce qu'elle cherche à faire, de toute façon, alors.
On va pas tout résoudre aujourd'hui. On pourra y arriver, l'imposer.
De toute façon, c'est fini maintenant, on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron.
Tout il disait ça il y a trois semaines étape, plus un jour.
C'est une étape, c'est
ben
pas.
Ben oui.
Hein, c'est pas fini.
Il sait bien ce qu'il a perdu, lui.
C'est pas fini, c'est une étape.
Il a dit chez Mondeur, ça sera plus jamais comme avant.
Premièrement, pour le vote, ils ont fait des saloperies.
On le sait, on le dénoncera.
Et t'es saboté le vote, oui. Ils ont fait ça à la saloperie, oui. Le vote. On a rien, on est de semaine à mois de vacances.
C'est pour ça que t'as mis. Il s'est engagé le temps, il a reculé. Il a reculé.
Mais oui, Dieu, il a reculé. Il est tellement. En tout cas, moi je rentre pas, c'est pas la peine de rentrer, c'est pour.
Ils vont être comme ça maintenant,
ils représentent.
Fais ça, mon bon.
Dans le calme. Je répète, les gens de chez Vendeur, rentrez, reprendre votre travail tranquillement.
Voilà, et on ne saura jamais vraiment si cette jeune ouvrière est repartie chez Wonder ou pas. Il y avait eu un formidable documentaire à partir de ses archives qui avait été signé par le documentariste Hervé Leroux. Ça s'appelait Reprise. Il était parti à la quête justement de cette jeune femme, sans spoiler la femme. Il ne l'avait jamais retrouvée. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre les uns et les autres sur cette révolte par rapport au monde du travail? Ah ben vous qui semblez être peut-être la plus révoltée, Nabel Giudice.
Ça m'inspire une réflexion sur effectivement le travail qui reste pour celles et ceux qui ne sont pas dans la course de manière générale, c'est-à-dire des travaux pénibles et dans lesquels je pense que malheureusement depuis plusieurs années les salaires n'augmentent pas, les conforts de vie n'augmentent pas et qui restent des travaux très très pénibles et dont on parle de moins en moins. Je pense que notre génération a été on connaît très peu les syndicats, je ne sais pas pour vous, hein, vous me direz, mais on est très peu au courant de tout ça. Les mouvements de grève sont plutôt derrière nous, donc il y a des choses qui sont en train à nouveau de se passer aujourd'hui et qui feront peut-être bouger certaines lignes, mais c'est vrai que ça interroge. En tout cas, ce témoignage me fait aussi penser que la culture ouvrière est quelque chose qui me semble très loin de moi, alors que de la classe sociale à laquelle j'appartiens, elle pourrait être plus proche, et c'est quelque chose que j'ai à cœur de retrouver, c'est-à-dire l'ouvrier dans le sens celui qui met en œuvre sa force de travail, parce que pour payer mes études, j'ai dû mettre en œuvre ma force de travail pour avoir la possibilité d'aller vivre en ville, etc., suivre des études, mais aussi parce qu'il me semble indispensable de renouer à nouveau, je reprends ce discours-là, mais pour une réflexion plus globale sur ce que nous voulons du travail pour demain, pour nos enfants et pour les personnes avec qui nous travaillons aujourd'hui, de revenir à une... Qu'est-ce que le travail nous permet? Il est censé nous permettre de bien vivre. Il n'est pas censé juste nous permettre de travailler. Et je pense que cette crainte à la fois de ne pas avoir de travail ou cette crainte de retourner à un travail qui est un travail physiquement difficile, parfois psychologiquement éprouvant et qui épuise les individus, qui épuise les corps. Moi, j'ai à cœur de le retrouver. C'est aussi pour ça que je m'étais engagée comme comédienne avec la compagnie Nage, qui est une compagnie du Théâtre Forum, qui fait un travail de mise en voix de personnes qui viennent de toute classe sociale, de tout âge, de toute origine, pour faire parler les personnes à qui on n'accorde jamais ces voix-là. Donc, c'est l'extrait que vous avez passé, merci de l'avoir passé. C'est assez rare pour nous d'entendre ça, je pense.
La culture ouvrière, la culture syndicale, c'est quelque chose qui vous parle à vous, Anthony Babkin?
Franchement, pas trop. Moi, j'aimerais plutôt rebondir sur ce qu'on évoquait juste avant. Je crois qu'aujourd'hui, on a un vrai besoin de faire émerger des rôles modèles qui viennent d'un peu partout. Je crois que c'est notre travail en tant qu'association. En tout cas, c'est le travail avec diversité ce que l'on a. C'est un moment de dire à plein de jeunes de banlieue, de région rurale, qui voient encore un plafond de verre, parce qu'on parlait d'Australie, etc. Moi, j'ai envie qu'il y ait plein de jeunes qui rêvent de pouvoir faire des grands jobs, c'est-à-dire monter sa boîte, est indépendant, rejoindre un grand groupe s'il en a envie. Donc pardon de voir le scope très ouvert et pas limité à quelques jobs, mais je crois qu'aujourd'hui il existe plein d'opportunités professionnelles en particulier liées au numérique et qu'aujourd'hui il n'existe pas de représentants de la diversité sociale, ethnique ou culturelle qui représentent véritablement aujourd'hui cette réussite-là. Donc la réussite via le travail, mais à un moment comment on l'incarne, comment on donne envie à un jeune d'en faire partie et de la rejoindre. Et je crois qu'aujourd'hui il y a un gros travail en France à faire sur ces rôles modèles. Comment, parce que moi je suis venu d'ici, je viens de tel quartier, je viens de la même région que toi, je te donne envie de rejoindre un peu l'aventure, de dépasser, comme l'extrait du livre que vous avez évoqué tout à l'heure, un moment de dire, effectivement, je vais peut-être cumuler plusieurs petits boulots, je vais peut-être passer par des galères, etc., mais je vais y arriver parce que j'ai des modèles qui m'inspirent.
Oui, Annabelle Dulicet.
Excusez-moi, mais tout le monde ne peut pas réussir.
Alors déjà, il faudrait se dire ce qu'on met derrière le mot réussite. Moi, je dis vivre de sa passion déjà, je mets plutôt ça derrière le mot réussite. Mais simplement, c'est montrer aujourd'hui, quand on regarde les rôles modèles qui viennent de banlieue, ce sont plutôt des chanteurs, des danseurs, des footballeurs. Aujourd'hui, on valorise très peu les entrepreneurs, les gens qui créent leur start-up, etc. Donc je crois qu'il y a un vrai travail à faire autour de ces autres formes de réussite. J'entends par là ne pas segmenter la réussite à quelques milieux sociaux ou à quelques carrières, mais plutôt à parler de différentes typologie de carrière, et ça en revient au sujet de l'orientation. Et à un moment, j'ai envie de m'orienter vers telle voie parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a un peu le même parcours que moi, ou qui est né un peu dans le même environnement, qui
l'a fait. Auquel je peux m'identifier.
Je retente ma chance avec vous, Salomé Berlioux, sur la culture syndicale et la culture ouvrière.
Je crois que vous allez être déçu parce que effectivement.
Non, pas forcément. Ça peut être aussi intéressant. D'ailleurs, que ça ne vous ça ne vous parle pas particulièrement. Ça, c'est aussi sans doute le reflet d'une culture qui s'efface progressivement.
Oui, ce qui est certain, c'est que effectivement, en écoutant cet extrait, on se dit. Tout ça est quand même très relatif et effectivement je pense que nous trois autour de la table avec nos parcours qui sont très différents et nos choix qui le sont aussi, nous ne sommes pas dans la situation de cette jeune femme et que justement la question du potentiel et de la réalisation de son potentiel ne se posait sans doute pas pour elle comme elle se pose pour nous et dans nos recherches de réalisation personnelle, professionnelle et autres aujourd'hui.
Vous avez tous les trois un point commun, j'ai regardé ça tout à l'heure, vous êtes tous les trois inscrits sur le réseau LinkedIn, un réseau social professionnel qui est censé permettre de trouver du travail. Je voulais juste savoir, vous y êtes inscrit parce que vous vous dites qu'il faut toujours être disponible à de nouvelles propositions qui pourraient vous être faites, Salomé Berlioux ?
Oui, je dirais que ça faisait un peu partie du parcours obligé post-études, la confection d'un CV, l'inscription sur LinkedIn, voilà, il fallait le faire. Je ne trouve pas ça redoutable d'efficacité, ni dans un sens, ni dans l'autre. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Non, moi je crois que c'est devenu une plateforme essentielle dans la recherche d'emploi. On ne le fait peut-être pas assez savoir, mais aujourd'hui il existe évidemment Pôle emploi, l'APEC, enfin plein d'organismes, etc. Aujourd'hui, avoir son CV en ligne, et en particulier sur LinkedIn, c'est essentiel pour la recherche d'emploi. Maintenant, à dire qu'il n'y a que ça, ce serait...
Est-ce que vous trouvez que c'est essentiel pour la recherche d'emploi ?
Bien
Moi,
sûr.
J'ai l'impression que les gens vérifient ce que vous faites
ouais.
et ils sont ravis de pouvoir le trouver en ligne. Mais est-ce qu'ils vont aller chercher des
Bien
gens
sûr. J'ai eu la chance d'accompagner différents grands groupes sur leur présence numérique, en particulier sur la création de leur LinkedIn. Aujourd'hui, c'est devenu un des principaux canaux sur lesquels ils postent leurs offres d'emploi.
Annabelle Giudice, qu'est-ce que vous faites sur LinkedIn?
Ils vont chercher les gens.
Écoutez, c'est une bonne question. C'est une excellente question. Je pense qu'effectivement, Anthony, vous abordez ça du côté grand groupe et je peux le comprendre parce qu'on voit effectivement des annonces régulièrement.
Et pas seulement. Ne restons pas figés sur grand groupe et start-up.
Je n'ai jamais trouvé un travail par LinkedIn. Je n'ai même quasiment jamais trouvé un travail de manière classique, c'est-à-dire en envoyant une lettre de motivation et un CV.
Mais l'un ne s'oppose pas à l'autre.
Mais je ne l'oppose pas. Simplement, j'explique ma position. Je pense qu'il y a certains secteurs d'activité qui effectivement peuvent l'utiliser comme outil de vérification, comme d'autres choses. Google m'a permis de savoir qui vous étiez. Facebook aurait pu aussi nous permettre une certaine rencontre. Il y a tellement de réseaux sociaux. On multiplie les canaux de la même manière qu'on multiplie la pression à la fois sur les jeunes et à la fois, par exemple, sur des chômeurs ou des demandeurs d'emploi ou des gens qu'on considère comme à la marge ou en nécessité d'accompagnement sans leur poser vraiment la question de savoir s'ils ont besoin d'être accompagnés parfois. Je pense à Pôle emploi, des expériences vécues, très précisément. Et donc, par exemple, j'ai eu une formation Pôle emploi quand j'ai demandé un RSA pour me mettre sur LinkedIn alors que j'ai un master et que je sais utiliser un ordinateur. Mais c'est une formation obligatoire. Donc, depuis, je fais un petit peu comme Salomé, j'ai simplement mis à jour en me disant, bon, si on vérifie un jour, je serai à jour.
Nous sommes le 1er mai 2029. 10 années ont passé. Je suis ravi de vous retrouver 10 ans après. Vous faites quoi comme travail, Anthony Babkin?
Moi, je suis toujours impliqué sur l'égalité des chances. Je pense qu'il y a énormément de travail aujourd'hui. Ça fait moins d'un an que je suis sur ce secteur-là. Je suis passé par là il y a 10 ans. Je me rends compte à quel point les investissements dans l'égalité des chances sont encore une petite goutte d'eau dans l'océan. Donc je crois qu'il y a
Dans 10 ans, on n'aura pas beaucoup plus avancé.
Je le souhaite, si. Et puis que ce soit Chemin d'avenir ou nous, on aura fait un gros travail. Donc les choses auront continué à bouger. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui doit être encore plus importante au niveau des décideurs. Et pour faire bouger les lignes, il y a besoin à la fois de valoriser des rôles modèles, des parcours qui changent, des décideurs qui ne sont pas toujours issus des mêmes écoles. Et ça, c'est un gros travail. Et je peux vous dire qu'en 10 ans, on n'aura pas fait tout le travail.
Et vous voyez comment, vous, Salomé Berlioux,
oui,
dans 10 ans?
C'est ça. Moi, pour rebondir sur ce que vous dites, Anthony, je pense que ces sujets-là, si les pouvoirs publics ne s'en emparent pas, et notamment la question de la jeunesse et de la jeunesse des territoires, et j'insiste sur le fait que c'est 60% des jeunes Français qui vivent dans ces territoires-là, s'il n'y a pas une politique publique active, dynamique, à destination de ces jeunes-là pour les aider à construire leur parcours et à mieux s'orienter au pluriel. Les associations peuvent faire un job formidable et elles le font, mais ça ne peut pas être à la hauteur de l'enjeu. Qui est
mais
le
vous, personnellement, vous ne vous projetez pas davantage que ça dans un avenir qui n'est pas si éloigné que ça?
10 ans, c'est loin. Ça fait partie des questions qu'on pose effectivement dans des entretiens d'embauche. Où est-ce que vous vous imaginez imaginer dans 5 ou 10 ans et on se prépare à cette question-là en essayant d'avoir l'air à la fois de se projeter, d'être ambitieux et en même temps pas présomptueux, etc. Je suis convaincue que je travaillerai toujours sur les questions d'égalité des chances. Soit ça pourrait très bien être, par exemple, dans une fondation d'entreprise très engagée sur ces sujets.
Annabelle Giudice, j'ai trouvé votre CV sur LinkedIn. Entretien d'embauche. Dans 10 ans, vous ferez quoi ?
Alors, je pense que vous seriez déçu comme embaucheur potentiel, mais il est évident que dans 10 ans, j'espère bien être sur des territoires à parler avec des gens qui ont envie de réfléchir au travail et qui ont arrêté de travailler pour réfléchir.
Et ben voilà une excellente conclusion. Merci beaucoup à tous les trois, Annabelle Giudice, Anthony Babkin et
Merci.
Salomé Berlioux, d'avoir participé à cette discussion. Si on veut trouver des informations sur vous, c'est sur Internet et c'est notamment sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain. Cyril Marchand, Virginie Leduot, Antoine Tricot, Fanny Richet, Antoine Dulster. Émission réalisée par Émilie Valla, avec à la prise de son Jean Frédérics. On se retrouve demain à 18h20. Dans un instant, ce sera la dispute d'Arnaud Laporte. Et tout de suite sur France Culture, le rappel des titres.